Alors, c'est aujourd'hui la commémoration du baptême du Christ, hein, si on suit le calendrier liturgique. Baptême de Jésus par Jean dans les eaux du Jourdain. Donc, on va lire le chapitre 3, une bonne partie du chapitre 3, en tout cas de l'évangile selon Luc, qui inclut notamment le passage qui est indiqué dans notre lectionnaire d'aujourd'hui, mais en l'augmentant un tout petit peu. Et puis, alors qu'en général, on se tourne vers le passé en proposant la lecture d'Ésaïe 40, qui est la prophétie qui annonce le baptême, mais qui est en fait un texte largement cité dans notre texte d'évangile, je préférerais me tourner avec vous vers l'avenir, en lisant avec vous aussi, et en commençant par là, un texte d'Acte 1, les versets 1 à 11, qui font aussi référence à ce baptême. Alors on commence par Acte 1. 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que mon Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà. Et nous prenons donc aussi le texte de Luc, le chapitre 3, les versets 2 à 22. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rocailleux seront aplanis, et tout homme verra le salut de Dieu. » Tout ceci étant la citation d'Ésaïe. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous le déclare que c'est Pierre. Dieu peut en faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, mais que devons-nous faire ? Il leur répondit que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. » Et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Comme le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel avec ces paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Voilà, donc ces textes du jour nous montrent que nous sommes bien sortis de la période de Noël, même si l'arbre est encore avec nous aujourd'hui. Nous avons ces derniers dimanches lu un certain nombre de textes un peu divergents et un peu incertains concernant la jeunesse de Jésus. Et nous entrons maintenant, si j'ose dire, dans les choses sérieuses avec le début du ministère de Jésus. Choses sérieuses puisque le ministère de Jésus commence avec ce baptême, bien sûr, qui est évoqué dans les quatre évangiles. Même s'il y a des différences importantes entre les textes que nous allons rapidement évoquer. Donc cet événement qui marque le début du ministère de Jésus est interpellant pour deux raisons qu'il faut examiner. La première, c'est qu'il définit en partie qui est Jésus. Il y a cette parole qui est prononcée. Mais si on lit bien le texte, on peut voir que c'est pas exactement ce qu'on pourrait croire. Et d'autre part, il y a bien sûr un point extrêmement important qui est que ça nous parle de l'Esprit-Saint et de l'action de l'Esprit-Saint. Alors, affaire troublante, je le disais, parce que on lit en général que la deuxième partie de ce texte de l'Évangile que nous avons lu en entier, et la première partie évoque toute la prédication de Jean-Baptiste. C'est troublant parce que les gens qui pensent que Jésus est un être parfait et sans péché s'expliquent mal pourquoi Jésus vient auprès de Jean-Baptiste pour demander le baptême en rémission des péchés, baptême de repentir et de conversion. Et Jésus, il n'y a pas de doute, sollicite et obtient ce baptême. Un peu curieux aussi est la formule par laquelle il est intronisé, qui semble d'apparence assez simple, mais dont j'ai découvert en préparant ce culte avec stupéfaction qu'elle donne lieu à un festival de traductions et d'interprétations diverses, avec des approches théologiques sous-jacentes qui modifient profondément les textes. Le texte que j'ai lu, c'est dans la version Second 21. C'est une version très récente qui cherche à rester près de l'original tout en étant actuelle dans le langage et qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation ». Alors, ça traduit en fait un verbe grec dont je vous fais grâce qui signifie, d'après le dictionnaire Bailly, « juger bon, approuver, être satisfait ». Donc, une traduction mot à mot, c'est « en toi j'ai approuvé »,« en toi j'ai trouvé bon » ou « en toi j'ai été satisfait ». Ça serait le mot à mot. Et par analogie avec la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, certains ont cherché des équivalents hébreux ou araméens. Ce qui m'a étonné, c'est la diversité des résultats, puisque, en gros, il y a quatre écoles. Il y a « en toi j'ai mis toute mon affection », que disent certains, traduction de Louis II en 1910, repris par la Bible à la Colombe. Ça peut aller. Il y a « c'est en toi que j'ai pris plaisir ». Nouvelle Bible Second, très proche du choix de John Darby, qui avait écrit au XIXe siècle « il m'a plu de te choisir », au sens certainement du bon plaisir royal, du libre arbitre du roi. C'est en fait une allusion à un texte d'Ésaïe, Ésaïe 42, qui est un texte relatif aux serviteurs de l'Éternel. Donc on projette une prophétie dans le texte. Il y a plusieurs traductions qui introduisent la notion de joie. Parole de vie, Bible en français courant, et notamment aussi la traduction liturgique catholique qui dit « En toi, je trouve ma joie ». Moi, ça ne me paraît pas évident de voir la joie à cet endroit. Quant à la taube, là, je suis tombé de ma chaise, j'espère que vous êtes bien assis, elle reprend la formule de la Bible de Jérusalem qui écrit « Aujourd'hui, je t'ai engendré ». Effectivement, on n'a aucun rapport. Il est une citation, pas une traduction, c'est une citation du verset 7, c'est la fin du verset 7 du psaume 2, dans la traduction de la Septante. Et à l'appui de cette petite manipulation du texte, il y a une note qui dit, on revendique le témoignage de très anciens témoins et une fidélité à la pensée de Luc, paraît-il. Effectivement, la formule est citée dans les Actes et dans l'Épître aux Hébreux, même deux fois, à propos de la relation entre Dieu le Père et Jésus le Christ. Et c'est une formulation des psaumes qui reprend une formule qui était en usage dans le Proche-Orient ancien, où quand un roi arrivait au pouvoir, nous avions, nous en France, le sacre, hein, à Reims, le sacre du roi. Et là, il y avait cette formule d'intronisation qui manifestait que le roi était adopté par Dieu. Alors, cette transformation du texte, d'ailleurs, n'a été appliquée que dans Luc, elle n'est pas appliquée dans Matthieu et Marc, les textes parallèles, alors que les mots grecs sont identiques, pratiquement. On se demande un peu, enfin, je me suis un peu posé la question de savoir quelles avaient pu être les négociations entre les différents traducteurs, y compris protestants, qui avaient été impliqués dans la mise au point du texte de la Tobe pour accepter cette version du texte. Je dirais que, de toute évidence, certains se dépêchent, se hâtent d'affirmer ici la nature divine et surtout royale du Christ. Alors, ce souci de formalisation de qui est Jésus, un peu de manière un peu hâtive ici, parce qu'il y aura quand même la croix et la résurrection qui seront des moments encore plus importants, on la retrouve dans les évangiles de manière graduelle. Elle s'introduit petit à petit. Plus les évangiles sont anciens, moins elle y est. Marc, très simple, il n'en dit rien. Il dit au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe, etc. Une voix se fit entendre du ciel. Donc là, c'est une expérience subjective. Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir et il est inspiré par l'esprit. Au passage, le voir le ciel s'ouvrir, c'est la formule standard pour tous les prophètes de l'Ancien Testament. Quand un prophète a la révélation de ce qu'il doit annoncer, l'esprit est présent, le ciel s'ouvre. Matthieu reprend intégralement la formulation de Marc, pas de problème. En revanche, dans notre texte, Luc, par une tournure de phrase astucieuse, transforme ça en événement public à grand spectacle, puisqu'il nous dit, pendant qu'il priait, je pense que c'est ce que vous avez compris, tout le monde voit, hein, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre. Alors donc, on a transformé l'expérience religieuse personnelle de Jésus, dont il a certainement eu l'occasion de parler par la suite à ses disciples, en événement public. L'évangile de Jean, lui, va s'abstraire complètement du récit du baptême, mais va faire dire à Jean le Baptiste, en parlant de Jésus, « Celui-ci est l'agneau qui ôte le péché du monde. » Une formule, comme vous le savez, qui aura un succès important, puisqu'il reste absolument central aujourd'hui dans la célébration des messes catholiques. Voilà. Mais alors, qui est donc ce Jean-Baptiste, dont la prédication vous a peut-être paru un peu rugueuse lorsqu'on a lu le texte? Et sur qui repose, sur cette affirmation de Jean-Baptiste, repose toute une partie du développement de la pensée chrétienne. Donc Luc a évoqué au début de son évangile longuement la parenté, hein, parenté biologique, d'après lui, entre Jésus et Jean le Baptiste, sans qu'on puisse dire si c'est pour évoquer réellement leur cousinage ou si c'est plutôt pour insister sur leur proximité spirituelle et leur proximité intellectuelle. Selon l'historien attitré de l'époque, Flavius Joseph, Jean est un des prophètes qui a parcouru la région à l'époque, mais l'un des plus influents et des plus connus, qui était suivi par des notables et des gens du peuple. Il était, on pourrait le comparer au Daniel Cohn-Bendit de l'époque, si vous voulez. Il était issu de l'establishment, mais il était en rupture. Il était pérégrinant dans des régions arides où on élève des chèvres et il s'habillait comme un chevrier et il se nourrissait comme un chevrier simple. C'était un peu le Larzac, quoi. Il était mai 68. Voilà. Il posait effectivement toute une contre-culture face à l'occupant romain, à l'establishment corrompu, la luxure des élites. Et son comportement veillait un petit peu, je pense volontairement, à s'inscrire dans la prophétie du chapitre 40 d'Isaïe qui est citée dans notre texte. Donc on a lu « Aplanissez les chemins du Seigneur » et « La voix crie dans le désert ». Notre texte nous donne une évocation donc très complète, à mon avis, de toute cette prédication, puisqu'il y a quand même 11 ou 12 versets qui en parlent. Et donc on a bien ressenti qu'on a lu la hache près de des arbres prêts à couper les mauvais arbres et les brûler. On a bien senti que il fallait changer. Hein. Il propose aux gens de repentir et d'adopter des comportements plus éthiques, mais qu'il y a menace, hein, et ce qui est corrompu sera détruit. Puis, dernier point sur Jean-Baptiste, sa spécificité, qui lui vaut le surnom de Jean le baptiseur, Jean le Baptiste, c'est qu'il a plus ou moins inventé le baptême unique, qui signifie le changement de vie, la conversion. Jusque-là, les Juifs pratiquaient le bain rituel, mais il fallait le répéter. À chaque semaine, ou comme ça, on va au bain rituel pour se purifier le corps et l'esprit. Le baptême de Jean, c'était un baptême qui venait être le point d'orgue d'une démarche de changement profond, d'une démarche de conversion, dans laquelle on renonçait à ces pratiques mauvaises, et dans lesquelles on rentrait dans le Jourdain, on sortait de la terre promise. Le Jourdain, c'est pas n'importe quel endroit. On était nettoyé et on pouvait de nouveau entrer en terre promise, en sortant du Jourdain. Mais notre texte nous dit bien que ce baptême attirait des soldats, des collecteurs d'impôts, qui étaient plus ou moins troublés d'être au service des Romains. Et donc, on en est toujours à se demander pourquoi Jésus est allé là. En fait, tout indique que Jésus a été pendant quelque temps un disciple du Baptiste, pendant quelques mois peut-être. Et selon l'évangile de Jean, dans un passage de l'évangile de Jean, il est indiqué que Jésus et Jean le Baptiste ont baptisé ensemble pendant une certaine période. Donc ce qui nous fait, et qui a fait beaucoup hésiter les théologiens sur le fait de savoir si Jean le Baptiste avait vraiment reconnu Jésus comme le Messie, et il y a déjà très longtemps, Étienne Trocmé avait conclu que les épisodes rapportés par les évangélistes pour montrer que Jésus était le Messie étaient, mythiques. Aujourd'hui, Marguera, si vous avez l'occasion de lire ses livres, c'est intéressant, fait remarquer que si ça avait été le cas, dans l'évangile de Matthieu, on n'aurait pas la question qui est envoyée par Jean depuis sa prison à Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ?» S'il en avait été certain au moment du baptême, il n'aurait pas pu poser cette question. Bon, au final, on peut dire que Jean et Jésus ont des points communs. Comme Jean, Jésus est en rupture avec le pharisaïsme sacerdotal. Comme lui, il appelle les Juifs à la repentance et à la conversion. Mais la façon d'agir de Jésus et son message vont se différencier nettement de celui de Jean. Jean n'est un ascète qui vit au désert. Jésus n'est pas un ascète qui vit au désert, mais un visiteur des villes et des villages qui va à la rencontre de chacun, là où il est. Jésus n'observe pas le jeûne, comme Jean. D'ailleurs, les disciples de Jean s'en inquiètent dans un évangile ultérieurement. Mais il mange, il boit avec les pêcheurs et leur offre une vie nouvelle, là où ils sont. Jean se limite au cadre juif. Jésus va bien sûr dépasser fortement le cadre juif et s'adresser aux païens, samaritains, syrophéniciens, cananéens, etc. Et puis surtout, il n'y a pas, chez Jésus, la vision violente de Jean du règne à venir, marquée par la colère de Dieu contre les pécheurs, mais l'annonce d'un salut joyeux. Finalement, on peut se réconcilier avec le message de fond qui est porté par les textes du jour, en concluant que Jésus est bien celui qui a été envoyé par le Dieu d'amour pour nous réconcilier avec lui et avec nous-mêmes, tandis que Jean, qui joue un rôle essentiel pour lancer la carrière de Jésus, si je puis dire, ou son ministère, Jean reste un prophète de l'Ancien Testament qui appelle au changement et à la conversion, oui, mais à qui il manque la notion de grâce. Et puis, je vous disais tout à l'heure en commençant, il faut que nous arrêtions un instant sur l'action de l'Esprit, puisque ce baptême de Jésus est un moment particulier qui comporte une effusion de l'esprit sur Jésus seul, ici, d'après les textes de Marc et de Matthieu, c'est tout à fait clair. Et on s'aperçoit que l'Esprit Saint jouera en permanence un rôle important dans la vie quotidienne pour la communauté après le départ de Jésus. Une communauté qu'on n'appelle pas encore chrétienne. Et donc en acte 1, je vous ai lu tout à l'heure le texte, promesse renouvelée par Jésus, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans, etc., jusqu'aux extrémités de la terre. En acte 2, on trouve bien sûr le moment bien connu de la Pentecôte. Puis ultérieurement, si vous lisez, d'ailleurs je vous encourage à lire les actes des apôtres, parce que ça se lit comme un roman, mais vous verrez que dans pratiquement chaque chapitre, on a une intervention de l'Esprit pour expliquer comment les disciples se débrouillent. Par exemple, au chapitre 4, c'est Pierre est confronté au Sanhédrin et au grand docteur de la loi juif, et c'est l'Esprit qui lui permet de se défendre. Puis, ensuite, l'assemblée des disciples connaît une expérience collective. quand ils eurent prié, nous dit le texte, les lieux où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà. Donc je ne vais pas détailler davantage le livre des Actes. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que peut faire l'Esprit et ce que l'Esprit peut faire aujourd'hui pour nous. Personnellement, je ne suis pas insensible à la notion de pneumatique, comme disent les savants, c'est-à-dire le rôle efficace que peut jouer l'Esprit. Une anecdote familiale, dans la famille, bon, c'est un peu un racontard, mais quand même, il y avait parmi mes ancêtres de la famille jaune, du côté dans le Gard, des gens qui croyaient aux prophéties, puisqu'on raconte dans la famille la prophétie d'un certain Nougared, qui était un Quaker, un ancien Quaker du village de Codognan dans le Gard, qui passait devant le château de Fontanès, village voisin, devant le superbe château de la famille comtale Narbonne-Pelay, qui était crainte et respectée, et il annonça que ce bâtiment serait bientôt détruit et que les ronces pousseraient dans ses ruines. Et il dit aussi que son grand âge l'empêcherait de voir ce jour. Eh bien, c'était 25 ans avant la Révolution, donc 25 ans plus tard, la populace envahit le château, le détruit, le brûle, et effectivement, pendant une cinquantaine d'années, les ronces ont poussé sur les ruines du château. Donc, voilà, bien que scientifique de formation, je ne suis pas opposé à dire qu'il existe peut-être une véritable puissance de l'esprit. Mais revenons à la Bible. Ce que nous lisons sous les plumes de Jean et de Luc, surtout, c'est que par la grâce de Christ, la force de l'Esprit est un don de Dieu, distribué aux hommes qui l'ont reçu ou qui en sont remplis, comme ils disent, qui en tirent donc des lumières et des forces qui surpassent même ce que le Sauveur a pu accorder pendant sa carrière terrestre. Et puis, selon l'apôtre Paul, les fruits de l'Esprit ont pour nom amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, douceur et maîtrise de soi. Pour Paul, accueillir l'Esprit, c'est marcher à sa suite dans la lumière et la sanctification par l'Esprit. Quant à Calvin, il a une belle formule, plusieurs belles formules. Il nous dit « Il est le maître intérieur par le moyen duquel la promesse du salut entre en nous et transperce nos âmes. Autrement, elle ne ferait que battre l'air ou sonner à nos oreilles. Elle resterait à l'extérieur. » Et Calvin ajoute que c'est comme une clarté qui se présenterait en vain aux aveugles si cet esprit d'intelligence n'ouvrait les yeux de l'entendement, en sorte qu'à juste cause on le peut appeler la clé par laquelle les trésors du royaume des cieux nous sont ouverts, et son illumination peut être nommée la vue de nos âmes. Alors, on a beaucoup parlé des dons de l'esprit de type parler en langue, prophétie, etc. Est-ce que ce sont là les dons qu'il faut privilégier aujourd'hui ? J'ai noté quand même que Billy Graham, le grand évangéliste évangélique d'ailleurs américain, n'a pas eu besoin de parler autre chose que l'anglais pour aller dans le monde entier présenter la bonne parole. Et puis aujourd'hui, on a des logiciels de traduction. Alors là, franchement, le don de prophétie, bon, ça pourrait être utile. L'Église ou au moins certains chrétiens peuvent l'être prophétique. Certains se sont levés à partir de rien pour créer des organisations comme la Croix-Rouge, pour s'opposer au nazisme de très bonne heure, pour lutter contre la discrimination raciale aux États-Unis, pour porter témoignage contre les violations des droits de l'homme, par exemple pendant le conflit franco-algérien ou ultérieurement. Sommes-nous encore prophétiques ? Les chrétiens et l'Église ne sont-ils pas trop silencieux ? Devant les compromissions, par exemple, de l'Église orthodoxe russe avec le pouvoir, il faut bien appeler fasciste, qui s'exerce en Russie. Une intervention plus forte ne serait-elle pas possible pour arriver à pacifier le Proche-Orient, terre natale de Jésus ? Ne devrions-nous pas faire entendre une parole d'espoir et un appel à l'action pour faire avancer le partage des richesses, la préservation de la création, le respect par tous des limites planétaires ? L'Esprit ne pourrait-il pas nous conseiller en la matière si nous recherchions son conseil ? Sans doute oui, mais les dons qu'il faut rechercher prioritairement sont peut-être aussi ceux qui sont définis par Paul que j'ai cité tout à l'heure dans l'Épître aux Galates. C'est la liberté et le bonheur que nous apporte notre foi, c'est la joie qui est contagieuse et engageante, c'est la paix qui est au cœur de la volonté de Dieu et tout cela ces vertus de patience, de bonté, de foi, de douceur, de maîtrise de soi qui permettent une vie heureuse en communauté et en société, partout et toujours. C'est cette qualité d'humanité qui a été, je crois, la clé du développement de la communauté chrétienne. Peut-on encore accéder aujourd'hui à ces fruits de l'esprit ? Les exemples que j'ai cités me conduisent à penser que oui, mais sans doute faut-il d'abord en ressentir le besoin et demander l'aide de l'esprit. C'est ce que nous venons de faire dans la prière d'illumination. Et nous avons ainsi peut-être la clé des trésors qui se trouvent dans nos textes. Nous pouvons demander la force et l'inspiration de l'esprit sur un point particulier dans nos prières et avancer ensuite dans la foi que nous serons aidés pour surmonter les difficultés techniques ou autres qui nous barreraient la route, grâce à l'esprit qui sera là pour nous aider à répondre et à surmonter différents obstacles, comme on le voit dans les Actes des Apôtres. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de difficultés, mais le résultat collectif est au rendez-vous, la communauté progresse, le nombre de disciples augmente. D'ailleurs, par rapport à ces difficultés qu'on peut avoir sur notre route, au passage, je fais une page de publicité, au moment où notre Église fait parfois appel à nous pour un service, pour une responsabilité particulière, ne nous abritons pas derrière une prétendue incompétence. Conseiller presbytéral, trésorier, prédicateur laïque, tout ça peut paraître difficile, mais c'est pas un peu moins difficile peut-être que l'était la situation pour Pierre, homme de petite extraction du peuple et d'une éducation très sommaire pour répondre aux prêtres devant le Sanhédrin, devant la Cour suprême d'Israël. Et Paul, infirme, souffrant probablement d'une maladie aux yeux, de voyager sans cesse tout en gagnant sa vie de ses mains et dictant missive sur missive aux différentes communautés chrétiennes. Donc si l'Esprit assiste ainsi chacun à hauteur de ses besoins, c'est peut-être notre manque d'audace qui est cause de sa faible présence. Et il y a le témoignage aussi de ce fameux frère André, je ne sais pas si vous avez connaissance, un Hollandais qui s'appelait André van der Bijl, de son vrai nom complet, qu'on appelle frère André souvent, un laïc baptiste qui s'est baladé pendant 50 ans avec des Bibles dans sa coccinelle, parce qu'il avait une petite Volkswagen, à travers le rideau de fer. Donc il s'est jamais caché, enfin, il n'a jamais caché son chargement, et pourtant il n'a jamais été arrêté, puis ensuite il est même allé en Chine, je crois, en URSS, en Chine et tout ça. Et puis, un jour, à court d'argent, dans un pays qu'il ne connaît pas, dont il ne parle pas la langue, il est au bord d'une route et des inconnus viennent à lui et lui disent qu'ils ont su qu'il était là et lui viennent en aide. Il raconte ça dans sa biographie. Alors ces gens-là, ils ont été avertis par qui ? Peut-être bien par l'esprit. Alors lançons-nous, osons, et puis qui sait ? Certains dons viendront à hauteur des besoins. Alors bon, je ne pense pas que tout le monde soit appelé à prophétiser en public, bien sûr, mais nombreux sont ceux qui entendent cette petite voix intérieure leur donner tel ou tel conseil, parfois avec insistance, car l'Esprit peut nous accompagner partout. C'est Dieu proche, c'est Dieu intime, Dieu en nous. Voilà, c'est donc au bord du Jourdain, auprès de Jean le Baptiste, et dans une démarche pleine d'humilité, que Jésus comprend que Dieu l'envoie vers les hommes avec une mission si particulière. C'est la puissance de l'Esprit qui le lui révèle, à lui seul ce jour-là, mais son ministère lui permet de créer un groupe de personnes dévouées pour le service et le témoignage, sur lesquels l'Esprit de Dieu viendra également pour les conforter et les guider. Et nous aussi, nous sommes au bénéfice des promesses de Jésus à ses disciples. Pour notre service, c'est notre témoignage actuel, c'est toujours l'Esprit, Dieu en nous, qui est le carburant nécessaire. En cette nouvelle année, donc, sollicitons-le, laissons-le parler, écoutons-le, laissons-le nous guider vers de nouveaux défis, demandons-lui son assistance pour de nouvelles missions. Amen.